Salut, c'est Thomas Rozek. Passé 30 ans, on entre très clairement dans une zone à risque. On se retrouve à nager dans un désagréable entre-deux, où on est encore perçu par une bonne partie de nos aînés comme étant des gamins qui ne savent rien de la vie, et déjà comme des ancêtres un peu à la masse par les plus jeunes. C'est l'âge des premiers coups de vieux, par exemple quand vos petits-neveux tentent de vous expliquer leur passion dévorante pour le jeu vidéo Fortnite, passion d'ailleurs de plus en plus communément partagée vu le succès délirant du jeu qui est entré dans une nouvelle phase et affiche des ambitions clairement sportives. À la fin du mois de juillet, se tiendra en effet à New York la première Coupe du Monde de Fortnite, avec pas mal de Français en lice, l'occasion de se pencher à la fois sur le phénomène culturel qui est devenu le jeu et sur ce qu'il peut apporter à l'univers grandissant de l'e-sport qui par ailleurs regarde avec circonspection ce nouvel arrivé. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Avant toute chose, si comme moi vous vous sentez un peu largué, quelques données de base. Fortnite, c'est donc un jeu dont le succès repose essentiellement sur le fait qu'il soit gratuit, accessible à tous et qu'il propose un mode Battle Royale, c'est-à-dire en très résumé des parties où 100 joueurs sont réunis et doivent s'entretuer, le but étant d'être le dernier survivant. Autre clé du succès de Fortnite, son côté très fun, coloré, cartoon qui séduit énormément jusque dans mon cercle de collègues. Par exemple, mon camarade David Honora de Nos Ciné entre autres, qui sera mon guide pour tout cet épisode et qui s'est chargé d'expliquer aux néophytes que je suis pourquoi Fortnite avait pris une telle ampleur.
Au-delà du jeu, très vite, en fait, Fortnite est devenu un phénomène culturel.
Oui.
Qui a été adopté par des millions et des millions de joueurs, qui est devenu vraiment le premier sujet de conversation culturelle, notamment pour les enfants et les jeunes ados, qui a multiplié les partenariats avec ouais. des gros films, des grosses séries, enfin qui s'est complètement intégré dans la pop culture. Il y a un partenariat, on en avait parlé dans Nos Ciné avec Avengers Endgame. Ou carrément dans le film, un personnage joue à Fortnite, et puis c'est un partenariat croisé, donc dans le jeu on pouvait retrouver les personnages d'Avengers. Il y a eu aussi des partenariats avec John Wick par exemple, ou plus récemment avec la série Stranger Things, où on retrouve alors ils peuvent pas jouer à Fortnite dans la série parce que
non,
ça se passe dans les années 80,
c'est pas possible.
Mais on retrouve des portails de la série dans le jeu. Et donc, ce qui a fait son succès au-delà du design, c'est le côté immédiatement accessible.
Ouais.
Le jeu est sorti presque simultanément sur toutes les plateformes. Et le jeu est gratuit, donc du jour au lendemain, tout le monde a pu se mettre à l'installer parce qu'on en entendait parler sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, on peut se dire, comme c'est gratuit, comment ils fonctionnent, quel est leur modèle économique. Et en fait, le principe, c'est qu'on peut jouer gratuitement. Ça ne sert à rien de payer pour améliorer son gameplay ou son niveau de jeu. En revanche, on peut acheter des choses qui vont permettre de personnaliser le jeu. Et typiquement, on va pouvoir acheter des personnages. Donc en fait, on personnalise le personnage qu'on incarne. Et il y a des dizaines et des dizaines de ce qu'on appelle des skins qui permettent de varier le personnage qu'on joue. Tous les éléments, la couleur des armes, les accessoires des personnages sont personnalisables. Un autre aspect qui fait vraiment partie du phénomène culturel, c'est les danses. En fait, on peut faire une danse de célébration, par exemple, quand on tue quelqu'un, ou pour un peu narguer l'adversaire.
Ça, c'est un truc qui a eu un énorme succès, notamment sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup participé de la viralisation de Fortnite.
Exactement. C'est-à-dire que c'est un des marqueurs les plus visibles de l'effet culturel, à tel point qu'on voit que dans les cours de récré, dans les booms, les jeunes ados se mettent à danser comme les personnages de Fortnite. Et tout ça, mis bout à bout, fait que on est sur le jeu phare du moment.
Et du coup, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'ils font pour, pour maintenir cette espèce de position dominante? Comment est-ce qu'ils font pour continuer à la fois de gagner des nouveaux abonnés et de conserver ceux qu'ils ont déjà, le très nombreux joueurs qu'ils ont déjà?
Ouais, alors clairement, le but, c'est d'occuper en permanence le terrain, de créer de la nouveauté un maximum, de travailler tout le storytelling autour du jeu et de faire en sorte, clairement, on parlait du fait que les jeunes se mettent à danser dans les cours de récré, ça fait clairement partie de la logique d'entretenir en permanence, ouais. D'être au centre de tous les sujets de conversation. Et ça, Epic Games le fait très bien, notamment en mettant très souvent le jeu à jour.
Ouais.
Le jeu est construit sur un principe de saison. Qui surviennent tous les 2-3 mois. Mmh. Et en fait, chaque saison permet d'impacter la carte de l'île qui va changer au fur et à mesure. Elle est en plus impactée de manière un petit peu narrative, donc il va y avoir des événements, une chute de météorites, un volcan qui explose, des aliens qui débarquent, des choses comme ça qui vont impacter le terrain et créer des nouvelles zones, etc. Plus, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, il va y avoir un partenariat avec Stranger Things qui va faire qu'à un moment donné dans la carte, il va y avoir des portails qui ensuite vont disparaître, etc.
Ouais.
Et par ailleurs, tous les éléments du gameplay sont très souvent mis à jour. C'est-à-dire que des armes sont retirées, ajoutées, améliorées, ou au contraire, quand elles sont trop puissantes, un peu réduites. Il y a des mises à jour très très souvent. Epic Games aussi rajoute et supprime des véhicules, des éléments dans le jeu qui changent en permanence. Et en fait, très 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 régulièrement, il y a des nouvelles choses à tester, il y a des choses qui incitent les joueurs à revenir dans le jeu pour voir comment ça se passe.
Attention, qui prend beaucoup de dégâts, là où tu pousses sa carte de gil, ça suffit pas.
On est à 89.
On est à 89, donc on a encore récupéré les points du top 5.
Allez les gars.
Petit qui meurt maintenant. Il reste plus que Kin là-dedans.
Allez Kin, hein.
Oh, c'est fini, il s'est provocadé 4 de carré de massacre. Il a combien de kills? Il a 9 kills provocadé. Il vient de mourir aussi. Et c'est Kinect qui est fini. Du coup, on est à 89 points, les amis, pour Kinect.
Hein.
On va devoir attendre ces 9 minutes. Les 9 minutes les plus longues de l'histoire. Parce que c'est maintenant que la qualification peut jouer pour Kinect, Airwax et Nikov. C'est tout le monde, les 4 Solari, qui jouent leur qualification, les amis.
L'univers du streaming de jeux vidéo, donc du fait de proposer des parties à suivre en direct. Il y a toute une offre qui s'est structurée et qui s'est installée depuis quelques années, notamment grâce à Twitch. J'imagine que Fortnite en a énormément bénéficié, du coup.
Alors, en fait, on peut même dire que c'est réciproque. C'est-à-dire que Fortnite a clairement bénéficié de l'infrastructure de streaming qui était en place grâce à Twitch. Et dans l'autre sens, Twitch a énormément bénéficié du succès de Fortnite.
Ouais.
On peut le voir à travers deux personnalités qui sont devenues des véritables stars grâce à Fortnite et grâce à Twitch. La première personnalité s'appelle Tyler Blevins. Son pseudo, il est plus connu sous son pseudo qui est Ninja. Et c'est un Américain de 28 ans qui, par le passé, avait été joueur pro, notamment sur Halo. Parce que c'est un jeune mec très charismatique qui arrive à rendre ses parties très vivantes et très intéressantes. Il est devenu le streamer numéro 1 sur Fortnite et un peu l'emblème de ce jeu. On a une star un peu équivalente en France. Il s'appelle, donc son pseudo c'est Gotaga, il s'appelle Corentin Hussein, il a 25 ans. Et en fait, ils sont les deux représentants de la scène Fortnite sur Twitch. Et pour donner en fait une idée du niveau compétitif qu'atteint cette Coupe du Monde, qui vient d'organiser sur 10 semaines des qualifications pour cet événement, donc qui aura lieu du 26 au 28 juillet à New York, ni Gotaga ni Ninja n'ont réussi à se qualifier.
Moi, ce que j'ai compris de l'univers de l'e-sport, c'est que c'était pas forcément hyper bien perçu par tout le monde le fait que Fortnite prennent cette voie de compétition, de sport, enfin de ce côté sportif, justement parce que pas mal d'observateurs ou d'e-sportifs considèrent que c'est pas vraiment de l'e-sport, Fortnite. Mais alors pourquoi ?
Alors, en fait, toute la question qui se pose avec le e-sport, c'est qu'il faut que le jeu soit aussi juste que possible pour faire en sorte que c'est vraiment le talent ou la stratégie des joueurs qui soit récompensé. Et en fait, Fortnite pose pas mal de questions. Alors, il y a un premier truc qui est critiqué concernant Fortnite, c'est la question de la méta. La méta, c'est en fait l'ensemble des stratégies et des pratiques qu'on peut avoir dans le jeu quand on joue à très haut niveau, qui sont pas liées directement aux règles explicites du jeu, mais qui deviennent en fait le mode de jeu quand on joue à très haut niveau. Et en fait, un des problèmes avec Fortnite, pour le moment, c'est que la méta peut avoir tendance à changer très souvent à cause des mises à jour régulières dont je parlais. Et du coup, ça peut favoriser certains par rapport à d'autres, et ça pose des questions d'équité. L'autre aspect, c'est ce qu'on appelle ce que les joueurs appellent la RNG, c'est en gros le caractère aléatoire du jeu, et qui est jugé par beaucoup trop importante. La RNG, on va la retrouver notamment dans, comme on est parachuté sur l'île, en fonction de l'endroit où on tombe et des coffres qu'on ouvre ou des armes qu'on trouve sur le sol, on peut vite être handicapé en fonction de ce qu'on trouve dans le jeu, et ça c'est un aspect aléatoire avec lequel il faut composer. Oui. Mais en même temps, cette RNG, elle est présente dans la plupart des jeux compétitifs. Donc voilà, mais elle est jugée un peu trop importante sur Fortnite. Et puis, l'autre aspect qui là est plus évidemment problématique pour Epic Games, c'est le risque de bug ou de lag ou de saturation de serveur pendant les parties. Je pense que le cauchemar pour Epic Games, c'est que pendant la Coupe du Monde, il y a des bugs, voilà, des choses qui semblent évidemment des défauts du jeu. Donc tous ces aspects font que le côté e-sportif est un peu déconsidéré par une partie de la communauté. Et en même temps, pour plein d'autres aspects, d'abord parce que le jeu est extrêmement spectaculaire à regarder d'un point de vue, enfin à un niveau professionnel, du fait que les audiences sont considérables, que les dotations sont considérables, c'est devenu clairement un des jeux incontournables de la scène e-sport.
En prenant de l'importance, le monde de l'e-sport attire de plus en plus l'attention, d'une part à cause de ses largesses financières, comme les 30 millions de dollars par exemple mis en jeu pour la Coupe du Monde de Fortnite, mais aussi et surtout pour des raisons purement sportives, ce qui explique que la presse notamment s'y intéresse de plus en plus. Un exemple très parlant, c'est celui du journal L'Équipe, la référence généraliste en sport en France, qui couvre désormais l'e-sport grâce à son spécialiste maison, Paul Arrivé. Paul est venu nous voir avec David et on a pu lui demander comment il percevait l'arrivée de Fortnite dans cet univers qu'il connaît par cœur.
C'est hyper intéressant parce que le jeu a quand même beaucoup évolué. Au début, ça tournait quand même vachement autour des Gotaga, des Ninja. Donc, c'était plus des streamers que des joueurs pros, plus des influenceurs que des e-sportifs. Mais les choses ont quand même évolué dans le sens où, avec la Coupe du Monde, avec l'arrivée des compétitions et avec la montée de niveau, les gens sont peut-être plus intéressés à ce qui se passait au niveau compétitif. Et ça a été très, très intéressant à voir arriver. Maintenant, c'est dur de bosser sur Fortnite parce que le jeu change tout le temps et Epic Games demande vraiment, vraiment beaucoup d'adaptation aux joueurs. Parfois même à deux jours d'un tournoi, ils vont changer la façon de jouer le jeu. Et Epic est vraiment arrivé avec ses gros sabots dans le milieu, a même à peine voulu utiliser le mot e-sport, c'est encore assez flou, ils font leurs choses à leur sauce. Mais d'un autre côté, c'est du jeu vidéo qui demande énormément de skills, donc forcément, il y a énormément de gens qui s'intéressent à Fortnite, qui suivent Fortnite, donc forcément on le suit et on le traite comme un Counter-Strike ou comme un League of Legends.
Est-ce que justement l'arrivée de Fortnite dans le domaine du e-sport, ça signe aussi un glissement petit à petit de ces pratiques sportives qui pour l'instant sont minoritaires, on va dire, vers le grand public de plus en plus?
Oui, un peu, parce que justement Fortnite est connu par le grand public. Maintenant, je ne sais pas à quel point le grand public suit la compétition. C'est très dur à définir. Je pense que ça a ramené beaucoup de monde à suivre l'e-sport, mais même sur Twitch en général. Mais c'est hyper dur à quantifier, en fait. Et je pense que, mais de toute façon, c'est vrai pour tous les jeux. Il y a beaucoup plus de gens qui jouent à Fortnite sans s'intéresser à ce qui se passe autour au niveau de l'e-sport que de gens qui font les deux.
Ouais, j'ai posé la question du point de vue de la couverture médiatique pour les médias traditionnels, et en l'occurrence le point d'observation de L'Équipe est intéressant. Est-ce que de plus en plus le journal est ouvert à donner de la place au sujet, et si un francophone remporte de la Coupe du Monde, est-ce qu'il peut se retrouver en une de l'équipe ?
Alors, je pense pas qu'il se retrouvera en une. C'est encore... Enfin, ça prendra au moins encore 10 ans, je pense. À ce sujet, tu vois, c'est tout bête, mais ce week-end, là, il y avait une compétition sur Counter-Strike, qui est l'ESL One Cologne, qui est une des plus grosses compétitions sur Counter-Strike. Il y avait une équipe française en finale. Et la compétition avait lieu dans une salle de 15 000 personnes qui était pleine. Et qui était pleine vendredi, qui était pleine samedi, qui était pleine dimanche. Donc un jeu qui a ramené 15 000 personnes pendant 3 jours. Personne n'a parlé de ça. Enfin, nous aussi, sur le site, il y a d'autres médias spécialisés dans les jeux vidéo, un peu dans l'e-sport, qui en ont parlé. Mais dans les médias grand public, absolument personne n'a parlé de ça. Alors que les mecs étaient en finale devant 15 000 personnes. Il y avait peut-être 1 million de personnes qui regardaient en ligne. Donc, je pense que ça n'arrivera pas tout de suite. Oui, les gens sont à l'équipe plus enclins à s'intéresser à l'e-sport. De toute façon, ils ont bien compris qu'il y avait un public et que ça intéressait des gens jeunes. Donc, forcément, on a envie de capter cette audience. D'autant plus que, d'un point de vue personnel, je pense que l'équipe est le média le plus adapté à suivre de l'e-sport parce que le traitement est le même, en fait. Vraiment, on peut débattre des heures sur est-ce que c'est un sport ou pas, mais la façon de traiter la discipline est la même.
Et est-ce que, justement, vous arrivez à le mesurer, vous, du côté de l'équipe, cet afflux de nouveaux, potentiellement, de nouveaux lecteurs, d'un nouveau public qui s'intéresse, qui, du coup, va s'intéresser au journal parce qu'il est venu pour les articles e-sport et va rester pour lire le reste et découvrir le journal ?
C'est difficile, il y a des chiffres, hein, forcément. On a le nombre de vues sur les articles, sur les vidéos qu'on va produire aussi, mais c'est surtout sur les réseaux sociaux où c'est hyper facile à quantifier. Dès qu'on va sortir un article e-sport, qu'on va le partager sur Twitter, ça va être l'article le plus retweeté et liké de la journée. Des fois, devant des infos PSG, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Et ça, c'est quelque chose qui passe pas inaperçu. Forcément, quoi, parce qu'on se rend compte que on touche un public comme ça. Après, c'est difficile de le faire venir parce que faire venir régulièrement, on va dire, parce que ils consomment l'information différemment, ces jeunes-là. Et faut trouver d'autres axes, d'autres façons de leur raconter les histoires qu'on racontait peut-être et qu'on raconte encore aujourd'hui sur le sport, plus par l'écrit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire. Moi, j'essaye de pousser un peu pour qu'on fasse plus de vidéos, qu'on se mette sur Twitch, qu'on embrasse un peu YouTube, etc.
Il y a une évolution à trouver dans la manière de raconter le sport de manière générale pour toucher ce nouveau public.
Le sport de manière générale, je sais pas, mais pour l'e-sport, oui, c'est évident. On peut pas se contenter de faire un retour sur une compétition, même une minute avant. Ce sont les gens qui s'intéressent à ça, ils l'ont le résultat, ils l'ont eu 30 secondes après la fin de la compétition. Enfin, je pense qu'il y a un public qui est intéressé par vraiment du fond, quoi, des interviews, des reportages, des sujets un peu poussés. Et voilà, faut trouver le format, et faut trouver les angles aussi. Hein. C'est du travail de journaliste basique, hein, finalement, mais vraiment leur consommation n'est plus la même.
Il y a un vecteur de la manière de parler de sport, en particulier dans l'équipe, c'est de travailler des personnages, en fait, de suivre des stars, des vedettes au fur et à mesure. Est-ce que sur l'e-sport en général et sur Fortnite en particulier, les durées de carrière sont suffisamment longues, en fait, pour avoir justement des personnages qu'on suit et qu'on voit évoluer?
Sur Fortnite, c'est dur à dire parce que le jeu est trop jeune. Il y a des histoires à raconter, hein, forcément. Un Airwax, par exemple, qui va jouer avec Solari, est un ancien pro de League of Legends. Entre League of Legends et Fortnite, il a été pro sur le poker. Donc forcément, il y a des portraits comme ça, des personnages qui sont hyper intéressants à suivre et dont les histoires sont faciles à raconter, en fait, finalement. Pour le suivi, c'est difficile parce que, encore une fois, c'est trop... Le temps de vie de Fortnite, pour l'instant, est trop court. Par contre, des histoires comme ça, il y en a déjà sur Counter-Strike, sur League of Legends. Sur League of Legends, il y a un joueur français qui s'appelle Soaz. Il est là depuis la toute première année. Ça fait 9 ans qu'il est professionnel. C'est très, très rare dans le milieu. Et il est jeune pourtant, il a encore que 25 ans, mais voilà, oui, c'est possible, ça s'installe doucement de toute façon. Sur Counter-Strike, c'est encore plus long, parce que ça fait 20 ans que le jeu existe, et il y a des mecs qui étaient là il y a 15 ans. Il y a un joueur, par exemple, ce week-end, qui a fait probablement une de ses dernières compétitions et qui était en pleurs. Voilà, retracer un peu son parcours, le suivre, revenir en arrière à une époque où finalement le mec était peut-être suivi par une communauté plus restreinte de gens, c'est hyper intéressant. Le gars a évolué avec son jeu et avec l'e-sport, finalement.
Ce qui est intéressant aussi à suivre, j'imagine, c'est le fait que de plus en plus, dans l'encadrement des équipes, on trouve des sportifs de haut niveau, mais oui, qui viennent d'autres disciplines, qui viennent de ce que le grand public considère comme étant du sport sans aucun problème.
L'exemple le plus parlant, c'est au Danemark où une équipe Counter-Strike qui s'appelle Astralis est encadrée. Le directeur sportif, c'est Kasper Witt, qui est un ancien gardien de handball de l'équipe nationale du Danemark et qui est vraiment une légende, j'exagère à peine, au Danemark. Quoi. Mmh. Et donc forcément, à partir du moment où ce mec-là se dit aux gens « Bah ouais, moi je suis directeur sportif de cette équipe et l'e-sport, je considère ça comme une discipline, comme un sport », bah forcément, ça switch dans la tête des gens qui disent « Ah, ok, si lui le dit, peut-être que je vais m'y intéresser un peu plus ». En France, ça commence un peu à arriver. Donc il y a Mathieu Péché qui est un ancien kayakiste médaillé olympique et Yannick Agnel, forcément, qui est lui dans le milieu depuis peu. Mais on n'a pas... Enfin, Yannick Agnel, c'est une figure, mais c'est pas une légende comme a pu l'être Kasper Witt, qui a eu une très très longue carrière. Il s'est arrêté à 35-36 ans. Si aujourd'hui, un Thierry Meyer qui vient d'arrêter sa carrière disait « Ok, moi je veux devenir directeur sportif de Vitality », je pense que ça changerait pas mal de choses dans la tête perception de gens. Déjà, rien que le fait que Vitality s'installe au Stade de France, qui est hyper anecdotique en vrai, parce qu'ils vont aller dans les coursives et ils vont avoir leur... Alors ça, symboliquement, c'est fort, hein, y a pas de... Mais voilà, ça fait réagir pas mal de monde. Oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi.
Il y a un autre aspect, quand on fait le parallèle avec le sport, pour le moment, l'e-sport est beaucoup structuré autour de structures professionnelles et de clubs. Il commence à y avoir des exemples, il y a notamment eu à FIFA une compétition par nation. Au moment de l'annonce de la Coupe du Monde Fortnite, on pouvait se poser la question de est-ce que ça allait fonctionner par pays. Et puis, on peut aussi imaginer des perspectives autour des Jeux Olympiques. La démocratisation du e-sport peut aussi passer par le fait de représenter sa nation ?
Ça, c'est quelque chose qui est voulu sur certains jeux, par beaucoup. Par exemple, League of Legends et Counter-Strike a très peu, voire pas du tout utilisé ça. Le fait qu'on fasse une Coupe du Monde, par exemple, faire une Coupe du Monde sur League of Legends, la communauté quasiment entière demande ça depuis 5-6 ans, et pourtant, ils le mettent pas en place. Moi, je pense que oui, parce que ça a été le cas à certains moments, sur Overwatch, par exemple, sur FIFA, tu l'as évoqué. Et aussi, y a un exemple qui est assez parlant, c'est les Jeux Asiatiques. C'était une équipe chinoise qui avait gagné le tournoi League of Legends. Et il y avait eu un énorme coup de projecteur en Chine sur cette équipe qui représentait la Chine, hein, forcément, en disant « Regardez, on est champion de League of Legends ». Alors, ça n'a pas encore eu un impact énorme sur le développement, mais de toute façon, en Chine, le développement de l'e-sport est déjà énorme. Mais voilà, il y avait des télévisions vraiment qui avaient pointé leurs objectifs là-dessus. Moi, je pense que oui, ça aurait un impact positif. Maintenant, il faut que les éditeurs qui ne l'ont pas fait encore prennent ça au sérieux, quoi.
Alors, verra-t-on bientôt une équipe de France d'e-sport au JO ? C'est pas encore prévu, mais bon, Paris 2024 a bien choisi le breakdance comme nouveauté ajoutée au jeu, donc tout est possible. Merci à Paul Arrivé pour ses réponses et à mon camarade David Honora d'avoir piloté avec moi cet épisode de Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.